Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guériac en direct de la capitale américaine, mercredi 21 novembre 2018, Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, la campagne pour les élections du 23 décembre commence ce soir à minuit. Trois militants du parti au pouvoir ont été décapités dans le Kasaï. Au Mali, double attaque contre les forces armées, bilan 3 morts. En magazine, nous reviendrons sur la grève des enseignants du primaire et du secondaire en Côte d'Ivoire. Et c'est demain, Thanksgiving, l'un des plus grandes fêtes aux États-Unis. Les routes et aéroports sont bondés de voyageurs pour les retrouvailles familiales autour de la dinde. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. République démocratique du Congo, Martin Fayulu est de retour à Kinshasa. Le candidat commun désigné le 11 novembre à Genève par les principaux leaders de l'opposition revient pour battre campagne pour une coalition appelée Lamuka, entendez réveille-toi. Malgré le retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de cette coalition, les Kinois lui ont réservé un accueil chaleureux. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est vers 13h, heure de Kinshasa, que l'avion ramenant Martin Fayulu a atterri à l'aéroport international de Kinshasa. À l'extérieur, l'attendaient des militants et sympathisants arborant des drapeaux du MLC de Jean-Pierre Bemba, de l'ESID, son parti, d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi et d'autres partis et regroupements de la coalition Lamuka. La mobilisation en faveur du candidat commun de l'opposition était également perceptible le long du boulevard Lumumba. Le cortège a finalement chuté à la place triomphale en face du stade des Martyrs où un meeting a été improvisé. Prenant la parole, Martin Fayulu a déploré l'usage par la police des gaz lacrymogènes pour disperser ses militants, a remercié les leaders de la coalition Lamuka et annoncé qu'il démarrera sa campagne électorale par un grand meeting à Kinshasa. Adolphe Muzito, Freddy Matungulu et Eve Bazaïba ont également pris parole pour appeler leurs militants respectifs à voter pour le candidat commun de l'opposition, Martin Fayulu. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, trois militants pro-majorité Kabila ont été décapités samedi dans le Kasaï alors qu'ils faisaient campagne pour un candidat du parti présidentiel ou législatif prévu le 23 décembre. Par ailleurs, les États-Unis appellent à des élections crédibles et pacifiques. La RDC a une occasion historique pour gagner une élection crédible qui mène à une passation démocratique et pacifique du pouvoir, a dit le porte-parole du département d'État américain Heather Nauert. Double attaque hier au Mali contre les forces armées maliennes et de sécurité, FAMA. Le bilan est de 3 morts et 8 blessés, dont un grave à Boni, dans la région de Mopti, et Sokolo, dans la région de Ségou. Alors qu'un chef de village a été égorgé lors d'une foire à Bankas, dans la région de Mopti. Le point avec Kassim Traoré.
En revenant d'une patrouille, hier aux environs de 13h, un véhicule de l'armée malienne a sauté sur un engin explosif à Boni, dans la région de Mopti. L'attaque a été suivie de tirs nourris d'armes automatiques. Trois militaires maliens ont été tués et quatre blessés. À Sokolo, cercle de Nyounou, dans la région de Ségou, trois gendarmes ont été blessés, dont un gravement, lorsque leur véhicule a sauté sur un autre engin explosif. Par ailleurs, le chef de village de Djabel, Djadje Boukari, a été égorgé par des hommes armés non identifiés en pleine foire de Bankas. Djabel est un village situé à 12 km de Bankas, dans la commune de Kanibonzon. Ce village a déjà été attaqué il y a 3 jours par des hommes armés non identifiés et qui n'ont toujours pas été arrêtés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a estimé que la force anti-djihadiste du G5 Sahel faisait mieux que celle de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Les Nations Unies ont la MINUSMA, qui coûte plus d'1 milliard de dollars cette année et qui engage plus de 13 000 hommes. Le G5 fait avec le peu de moyens qu'il a et avec beaucoup de promesses, alors que la MINUSMA a énormément de moyens et ne fait pas si bien. Si on relativise les choses, le G5 n'a pas échoué, a-t-il déclaré dans un entretien avec des journalistes. Au Togo, les évêques appellent à des réformes constitutionnelles et institutionnelles avant les élections législatives prévues le 20 décembre. La préparation unilatérale des élections en violation flagrante de certaines dispositions contenues dans la feuille de route des médiateurs de la CEDEAO risque de conduire de nouveau le pays vers le chaos, déclare la conférence des évêques du Togo. La principale coalition de l'opposition à l'origine des manifestations qui secouent le pays depuis plus d'un an dénonce des irrégularités dans l'organisation de ces législatives et exige la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La Centrafrique est confrontée à des risques de famine. C'est l'alerte lancée par l'ONU. Si les gens ne retournent pas vers leurs champs et si nous n'avons pas un environnement propice au retour des déplacés afin qu'ils puissent travailler à nouveau leurs champs, dans quelques années, nous aurons une famine en République centrafricaine et ce sera un scénario catastrophe, prévient l'ONU. Côte d'Ivoire, les enseignants des écoles primaires, secondaires et techniques ont entamé une grève de 48 heures reconductible pour réclamer des augmentations selon une coalition de syndicats. À Abidjan, 60% des écoles sont fermées et dans l'intérieur du pays, toutes les grandes villes, Boaké, Yamoussoukro, San Pedro, toutes les écoles sont fermées, affirment les syndicats. Nous reviendrons sur cette grève dans la partie magazine de cette émission. À Madagascar, Marc Ramalomanana, un des deux finalistes de la présidentielle, annonce le retrait des plaintes qu'il avait déposées contre la commission électorale. Il dit avoir agi ainsi dans un souci d'apaisement. Guinée équatoriale, Théodorin Nguema Obiang, vice-président et fils du président Théodorin Obiang Nguema, a pour la première fois présidé un conseil des ministres mardi. Et c'est ce qu'annonce la télévision d'État. Le président, devant partir en visite officielle au Soudan, a donné pouvoir à son fils de poursuivre les travaux en son absence. Les observateurs y voient un signe tangible qu'il est bien sur la voie de succéder à son père. Au Kenya, une bénévole humanitaire italienne a été enlevée à Chakama, dans le sud-est du pays, par un groupe armé qui a ouvert le feu sur les habitants et blessé 5 personnes. Plusieurs dizaines de migrants qui refusaient depuis 10 jours de quitter un cargo au large des côtes libyennes ont été forcés de débarquer dans le port de Misrata par les services de sécurité libyens. Nani Talani les détails.
Selon l'ONU, 79 réfugiés et migrants restés à bord d'un cargo ont été forcés de débarquer. Certains migrants ont été blessés lors du débarquement forcé et transférés vers un hôpital public. Les autres ont été conduits à un centre de rétention de la ville. Human Rights Watch a qualifié ce débarquement forcé de la pire issue possible à la demande désespérée des personnes à bord du Niven d'éviter une détention inhumaine en Libye. Pour cette organisation, les autorités libyennes doivent autoriser immédiatement le personnel des Nations Unies et des ONG à rendre visite aux personnes débarquées du cargo, à trouver des alternatives à leur détention et à enquêter sur le recours éventuel à la force illégale. Depuis leur arrivée à Misrata le 10 novembre, ces migrants refusaient de quitter le bateau par crainte de mauvais traitements. Ils font partie des 90 personnes secourues par un navire au large des côtes libyennes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a remercié ce mercredi l'Arabie Saoudite pour la baisse du prix du pétrole au lendemain de son soutien sans faille affiché à Riyad plus d'un mois après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Les précisions de John Lyndon.
Les prix du pétrole baissent, génial, s'est félicité sur Twitter le 45e président des États-Unis. 54 $, c'était 82 $ avant. Merci à l'Arabie Saoudite. Mais allons encore plus bas, a-t-il poursuivi. Le cours des barils à New York et à Londres était en effet monté début octobre à leur plus haut niveau en 4 ans, les investisseurs craignant que les sanctions américaines sur le pétrole iranien ne fassent baisser drastiquement l'offre d'or sur le marché mondial. Pour éviter une éventuelle pénurie, l'Arabie Saoudite avait, comme la Russie, fortement augmenté ses extractions. Bien avant la sortie de Donald Trump ce mercredi, la Maison-Blanche a surpris hier en publiant un communiqué réitérant un soutien sans faille à l'Arabie Saoudite. Or, le meurtre du journaliste saoudien le 2 octobre dernier dans le consulat saoudien à Istanbul a terni l'image du royaume et de son prince héritier, Mohammed Ben Salman. Pour le locataire de la Maison-Blanche, il n'est pas question de toucher à l'alliance stratégique entre Riyad et Washington.
L'émissaire de l'ONU est arrivé à Sanaa pour relancer les efforts de paix au Yémen, où la bataille pour le contrôle de la ville portuaire de Hodeïda risque de causer une famine de masse, selon des experts. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Le Burkina Faso vient de signer avec des opérateurs privés des contrats pour la construction de plusieurs centrales solaires d'une capacité de 155 MW. Ces centrales permettront d'augmenter la production électrique nationale à 325 MW. L'énergie produite sera reversée dans le réseau de distribution nationale. En plus, elle sera rachetée par le réseau national à 48 francs CFA en moyenne. Ce prix de rachat est bien en deçà de celui des centrales thermiques qui varie entre 100 et 110 francs CFA. Le groupe Atlantic Financial Afrique a conclu un accord de 1,6 million de dollars avec la Société financière internationale pour le compte de ses deux filiales au Cameroun, la Banque Atlantique et Atlantic Assurance. Ce financement permettra d'accroître l'accès aux services financiers à des personnes à faible revenu, à des petits entrepreneurs et aux populations rurales. Terminons avec l'Afrique du Sud, où SureSwipe, qui fournit des services de paiement par carte, a acquis, pour un montant non dévoilé, une participation majoritaire dans le capital de Humble Chill, une société qui développe des logiciels de points de vente. Désormais actionnaire à hauteur de 50,1%, SureSwipe entend renforcer son offre de solutions de paiement par carte et de paiement intégré aux petites et moyennes entreprises, notamment les détaillants qui agrandissent leurs magasins et renforcent leur système de paiement et des points de vente.
Et on enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Le Ghana a fini premier de sa poule au mondial féminin des moins de 17 ans.
Et oui, opposée à la Nouvelle-Zélande, elle aussi déjà qualifiée, les Black Maidens se sont imposés 2-0. Un doublé de l'inévitable Moukarama Abdoulaye a permis aux Ghanéennes de terminer en tête de la poule A avec 9 points. Elles affronteront le Mexique en quart de finale. Pas de miracle en revanche pour l'Afrique du Sud, qui a lourdement chuté face au Brésil 1-4, scellant son élimination. Le Cameroun tentera de valider son billet pour les quarts ce soir contre la Corée du Nord.
On connaît les confrontations du deuxième tour de la CAN des moins de 23 ans.
Entre autres, on aura des duels en Afrique australe entre d'un côté l'Angola et l'Afrique du Sud, de l'autre entre le Mozambique et le Zimbabwe, sans compter Malawi-Zambie. Avec la Sierra Leone, le Cameroun a un nouvel adversaire à sa portée. Le Soudan du Sud, qui a créé la surprise en sortant de l'Ouganda, sera face à la Tunisie. Choc ouest-africain entre la Guinée et le Sénégal, tout comme Niger-Côte d'Ivoire. Exempté du premier tour, le Nigeria fera son entrée en lice contre la Libye, tandis que ce sera serré entre la RD Congo et le Maroc. L'Algérie aura un déplacement périlleux en Guinée équatoriale à gérer. Toutes ces rencontres du deuxième tour des éliminatoires se disputeront en mars 2019.
La CAF a suspendu deux arbitres controversés.
Tout à fait. Quelques semaines après les polémiques arbitrales qui ont émaillé les derniers matchs de Ligue des Champions, la CAF a réagi. D'après la presse de son pays, l'arbitre zambien Jenny Sikazoué a été provisoirement suspendu après sa prestation chaotique en demi-finale retour entre l'Espérance sportive de Tunis et Primeiro de Agosto. Devenu célèbre pour avoir accordé deux pénaltys très douteux à Al Ahly contre l'Espérance de Tunis en finale allée de la Ligue des Champions, malgré le recours à la VAR, l'Algérien Mehdi Sharef écope lui aussi d'une suspension provisoire en attendant son audition.
Et enfin, Neymar et Mbappé blessés avant le choc Liverpool-PSG.
Oui, l'attaquant brésilien Neymar souffre d'une élongation des adducteurs droits et son partenaire d'attaque Kylian Mbappé d'une contusion de l'épaule droite. L'annonce a été faite par le club parisien à seulement une semaine du choc contre Liverpool en Ligue des Champions. Neymar est sorti hier après 8 minutes de jeu lors du match amical entre le Brésil et le Cameroun à Londres. Mbappé est lui mal retombé sur son épaule droite lors du match amical des Bleus contre l'Uruguay au Stade de France. Il est sorti après une demi-heure de jeu.
Merci Yacouba.
Le le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. En Côte d'Ivoire, après les professionnels de la santé la semaine dernière, c'est au tour des enseignants du primaire et du secondaire d'entamer une grève pour réclamer de meilleures conditions salariales. Avant eux, les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan avaient boudé les salles de classe pendant plus d'un mois. Pourquoi le climat social se détériore-t-il malgré la signature d'un accord entre le gouvernement et les syndicats l'an dernier? Pour une réponse, Abdourahmane Dia a joint le journaliste et analyste André Silver Conan.
Les enseignants ont une plateforme revendicative, hein, comme des personnels du secteur de la santé avant eux, comme aussi des personnels des ministères de l'agriculture et des ressources animales, qui demandent, si vous voulez, globalement, une meilleure amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
C'est un pays à fort taux de croissance économique. Est-ce qu'il y a un sentiment que cette croissance n'est pas bien répandue, que certains ne profitent pas de cette croissance?
Absolument, les autorités elles-mêmes le reconnaissent. Presque tous les rapports, y compris les derniers rapports du Fonds monétaire international, pointent le fait qu'il y a une très mauvaise répartition des fruits de la croissance. La croissance, elle est indéniable, elle est forte. Au cours de ces 5 à 6 dernières années, on est parti de moins 1% de taux de croissance à souvent jusqu'à 8, frôlant 9% de taux de croissance. Cette croissance, elle est indéniable, elle est soutenue par une politique très simple, celle des grands travaux, qui injecte donc beaucoup d'argent dans les secteurs économiques. Mais ce taux fort de croissance, donc qui vise les agrégats macroéconomiques, n'a pas forcément une incidence sur les indicateurs microéconomiques que sont par exemple les revenus des ménages. Voilà. Et dans ces revenus des ménages, bien sûr, il y a donc le revenu des fonctionnaires, des agents de l'État.
Oui,
en même temps aussi, l'année dernière, rappelez-vous, il y a eu une mutinerie militaire qui a amené le gouvernement à se plier aux revendications salariales de certains militaires de 8400. Donc chacun s'est dit, écoutez, nous aussi on peut revendiquer pour obtenir gain de cause.
En août 2017, il y a cette signature d'un protocole d'accord, mais le porte-parole de la coalition des secteurs de l'éducation, M. Atabi, dit qu'il ne se reconnaît pas dans ce protocole d'accord.
Il ne l'a pas dit, en tout cas au moment de la signature. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement a travaillé avec des centrales et ces syndicats font partie de ces centrales. Et donc, c'est au moment, sinon à l'issue de la signature, que ces syndicats auraient dû dénoncer le contrat. Non, je pense que des contrats, comme les politiciens font aussi de la politique, voilà, et donc ils rejettent donc ce contrat qu'ils ont validé à travers leur centrale auparavant. Mais je veux dire, une trêve signée une année plus tôt n'a pas valeur de constitution. Donc de ce fait, ceux qui revendiquent aujourd'hui, parce que entre-temps de l'eau a coulé sous les ponts, ils ont aussi le droit de revendiquer.
C'était André Silver Conan, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a lancé la campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives et locales, couplées du 23 décembre. Mais les candidats devront attendre minuit pour se lancer dans la course, comme le prévoit la loi. Entre-temps, un des candidats à la présidentielle a écrit à la CENI pour lui demander de reporter les élections au regard de ce qui reste à faire selon lui. Eddy Sango a joint à Kinshasa le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba.
La CENI est venu rassurer les acteurs politiques que les élections doivent se tenir comme prévu le 23 décembre 2018, auquel cas notre opération appelée la campagne électorale va être lancée cette nuit à minuit, une minute. Voilà ce que nous avons dit aux acteurs. Nous leur avons présenté la situation de déroulement des élections dans les 1 bureau de vote et nous sommes allés plus loin jusqu'à dérouler de quelle manière va fonctionner les centres de compilation des résultats, les centres locaux de compilation des résultats pour assurer la vérité des urnes. En précisant bien, parce que nous ne pouvons pas réunir les gens à minuit, nous avons lancé la campagne aujourd'hui à l'heure du jour. À minuit, une minute, celui qui a la force peut déjà lancer.
Mais vous lancez cette campagne Au moment où vous avez reçu une lettre d'un des candidats à la présidentielle, je cite ici Sef Kikuni, qui vous demande, au regard de tout ce qu'il y a comme problème, de reporter les élections. Quelle est votre réponse?
Il n'est pas possible de considérer aujourd'hui la lettre d'un seul candidat, et nous venons même de répondre, parce qu'il n'a pas peut-être mesuré les conséquences d'un report quelconque des élections. À titre illustratif, il suffit d'annuler, de reporter pour remettre en cause la formation qui est déjà très avancée. Quelques temps après, pour revenir, ça demande de l'argent pour faire cette formation parce que les agents seront dispersés. Au moment où nous parlons, le déploiement se fait en fonction des entrepôts de transit. Ils ne sont pas prévus pour garder le matériel pour longtemps. Il suffit de reporter, il faut déjà un budget pour supporter les entrepôts d'autrui, au-delà des temps prévus. Il y a ce que les autres ne tiennent pas compte, et que cette demande ne voit pas qu'il y aura la question des nouveaux majeurs, parce que nous avions honoré préventivement les jeunes dont l'âge sera de 18 ans le 31 décembre 2018. Il suffit de reporter pour être en 2019, nous aurons encore la question des nouveaux majeurs. La question des nouveaux majeurs va demander la révision du fichier. Ça entraînera beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour le faire. Et tout ça, quand on met tous les autres paramètres ensemble, on trouve que cette demande-là est importune. Dès lors que ça s'est devenu d'un seul candidat.
Ce candidat n'a fait que dire tout haut ce que pensent beaucoup d'autres candidats. Vous-même, pour parler franc, est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt pour la campagne avec tout ce qu'il faut?
On l'a dit à la réunion interinstitutionnelle, président de la République, le chef de tous les corps constitués. Nous venons de le dire à des multitudes de gens, pas un seul candidat. Nous avons 21 candidats dans cette République. Et nous sommes arrivés à cette conclusion-là.
Voilà, c'était donc Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Maintenant que le plus haut tribunal d'Afrique du Sud a assoupli les lois nationales sur la marijuana, les entrepreneurs locaux, tentent de tirer profit de l'herbe. Plusieurs boissons faites à base de cette plante inondent le marché avec un goût unique, mais sans la mention du taux d'excitant. C'est peut-être le début, disent les activistes pro-marijuana, qui estiment que la célèbre usine qui les produit pourrait dynamiser l'économie nationale. Anita Powell les a rencontrés à Johannesburg. Voici son reportage présenté par Irénée Hermanoumbo.
Après sa dépénalisation en septembre en Afrique du Sud, la marijuana vit son temps de gloire. Non seulement sa culture est légale, mais sa commercialisation aussi. Des entrepreneurs ont introduit sur le marché une gamme de produits dérivés de la plante pour pleinement profiter de l'intérêt qu'elle suscite. Ces bouteilles de gin, par exemple, ne contiennent pas la substance de l'herbe qui provoque des effets de stupéfiants. Et même sans cela, elles se vendent comme de petits pains. Connor Davis renchérit.
On peut obtenir plus de 100 000 produits à partir du cannabis. Je veux parler de ses avantages. Vous pouvez construire une maison entière rien qu'avec du cannabis. De l'isolation à la pose des briques, tout peut être fabriqué à partir de cette plante. Elle a un potentiel incroyable.
Même les produits récréatifs comme cette canette de bière rapportent beaucoup, indique Natasha Nkongera, chef d'entreprise.
Nous avons vendu tout notre premier stock 10 jours après sa sortie. Là, nous embouteillons 100 000 litres et tout a été déjà acheté. Donc il faudra doubler la production pour atteindre 200 000 litres.
Le gouvernement sud-africain étudie aussi le potentiel économique du cannabis selon Connor Davis.
Quand nous comparons les chiffres aux États-Unis et en Afrique du Sud, nous voyons un potentiel immédiat de moins 200 000 emplois dans l'industrie du cannabis.
Julian Stubb et Mordell Clark sont des défenseurs de la marijuana. Le couple a mené la campagne en faveur de la décriminalisation de l'herbe en Afrique du Sud. Mordell y voit un énorme potentiel, notamment dans l'industrie cosmétique.
Nous savons que l'huile de cannabis et l'huile de graines graines de chanvre contiennent un fort taux d'oméga 3 et 6, ce qui est très bon pour votre peau. J'utilise un hydratant infusé à 1% de THC, ce qui est absolument incroyable. Des réactions cutanées de vos tatouages aux problèmes de cheveux, je pense que le cannabis a un potentiel énorme pour nous aider à nous débarrasser du plus grand nombre de produits chimiques que nous mettons sur notre peau et dans nos cheveux.
Son partenaire est moins optimiste quant à la commercialisation du produit. Toutefois, pour Julian Stops, la plante a intégré les habitudes plus jamais qu'auparavant.
Je vois différentes cultures essayer de mettre la main sur l'affaire. Maintenant qu'elle est à la mode et fumer de gros pétards n'est plus mal vu. Maintenant, c'est vraiment branché. Et vous avez de beaux vaporisateurs, du verre Epic et des filles de Beverly Hills qui le font même sur des plateaux.
Mais cela, admet Stops, est le but de la légalisation du cannabis. Une fois qu'elle devient acceptable, la graine se propage comme une mauvaise herbe.
Bonjour, c'est Abdourahman Dia. Rendez-vous à 18h05 temps universel sur VOA Afrique dans votre émission À votre avis sur la campagne électorale pour la présidentielle du 23 décembre qui démarre ce soir à minuit en République démocratique du Congo. Le président de la CENI a écarté tout report. Martin Fayoulou, le candidat commun d'une partie de l'opposition, continue de rejeter l'utilisation des machines à voter pour ce scrutin. Les candidats commencent à exposer leur programme. Que pensez-vous des promesses électorales des candidats en RDC ou ailleurs? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33.
Allez, direction Skid Row, où de nombreux volontaires se préparent pour Thanksgiving. Dans ce quartier du centre-ville de Los Angeles, des milliers de sans-abri vivent dans des parcs et des tentes. Mike O'Sullivan s'est entretenu avec ses volontaires dans la cuisine du refuge, où le repas de cette grande fête, qui est une tradition ici aux États-Unis, est en préparation. Récit Michel Joseph.
Dans les rues, une dure réalité. Celle de ces sans-abri, campant sur le béton. À l'intérieur, une cuisine de niveau industriel, capable de nourrir des milliers de personnes grâce à l'aide de volontaires. Ce jour-là, ce sont des employés de Wells Fargo, une société de services financiers, qui sont à l'œuvre. Ils reçoivent des conseils du personnel de cuisine de la mission de Los Angeles, une organisation caritative chrétienne. Écoutons une des volontaires.
C'est mon premier essai. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de le faire.
Les tartes seront préparées et stockées pour être cuites le jour même du dîner de cette fête annuelle. Keisha Matthews est cuisinière.
Nous nous préparons pour notre repas de Thanksgiving. Aujourd'hui, nous préparons des tartes à la patate douce. Nous préparons notre croûte à partir de zéro, ainsi que la farce.
600 tartes et des desserts pour près de 4000 personnes. Ceci après qu'elles ont fini leur dinde et tous les plats habituels de Thanksgiving. Eric Grant est chef cuisinier.
De ce côté, nous travaillons sur notre farce au pain de maïs.
Juliette Zhu, bénévole, est ravie de la participation de son entreprise à ce programme de bénévolat.
Il nous permet de venir ici, offrir un soutien à la communauté et avoir l'occasion de travailler avec les autres et les aider. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui.
Un autre banquier, Jay Hong, devenu cuisinier à temps partiel, est également ravi d'y participer.
Et le donner un peu, n'est-ce pas? Oui, c'est génial. Je suis content que nous puissions le faire.
Eric Grant, le chef qui supervise la cuisine, comprend bien ce que cela signifie d'être sans abri. Il a lui-même passé 5 ans dans la rue.
Quand je suis devenu un sans-abri, il y avait la crise du marché de l'immobilier. Il se passait beaucoup de choses. J'ai vécu un divorce. J'ai tout simplement pris de mauvaises décisions.
Il a reçu de l'aide et c'est maintenant son tour d'aider les autres à avoir un repas chaud et du soutien afin de pouvoir changer de vie. Une aide dont on a besoin tous les jours, y compris le jour de Thanksgiving.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique. VOA